Madame Figaro.
Le tournant a lieu en 2009. Le monde voit alors le destin de Tiger Woods, légende vivante du golf à 34 ans, sombrer au cœur d'un scandale digne de l'affaire Monica Lewinsky. À l'époque, il est marié depuis 5 ans à Elin Nordegren, un mannequin suédois de 29 ans. Et les tabloïds font soudain état de multiples relations extra-conjugales, on parle de 14 maîtresses, parmi lesquelles des stars du porno et des hôtesses de boîtes de nuit. Dans cette mini-série consacrée aux affaires qui ont entaché le monde du sport, la journaliste Camille Maestrachi revient sur l'affaire qui a pour toujours entaillé l'image de celui qu'on surnommait Mr. T, entre adultère, aveu et riab. Je suis Marion Galli-Ramouno, bienvenue dans Scandale.
Did O.J. Simpson commit murder?
Coupable d'homicide involontaire.
She was a teenage champion and then her life took a dramatic turn.
Please welcome the extraordinary Simone Biles.
Oh, isn't that great?
This guy put a knife in my back.
Left-handed hook shot.
He was beating you and abusing you.
Oscar Pistorius has been arrested for allegedly killing his girlfriend.
All I can say is the athletes did not look happy.
En 2009, la plupart d'entre nous connaissaient déjà Tiger Woods, la légende du golf. D'ailleurs, pour ceux qui ne s'intéressaient pas spécialement à cette discipline, c'était mon cas, c'est même le seul nom qu'on associe à ce sport. Mais en 2009, Tiger Woods prend une autre dimension. Il devient Tiger Woods l'infidèle, Tiger Woods l'addict au sexe, l'homme aux 14 maîtresses. Je me souviens de tout un tas de blagues qui circulaient à son sujet, que j'aurais trop honte de répéter aujourd'hui. Des blagues d'assez mauvais goût dont certains journalistes français n'ont pas hésité à s'inspirer au JT de 20h.
On connaissait son swing, mais on ne savait pas que son légendaire coup de rein lui servait dans des positions, disons, moins verticales. C'est un accident de voiture à 2h30 du matin, alors qu'il était apparemment pourchassé par sa femme, qui a révélé le poteau rose. Tiger Woods se présentait volontiers comme un mari fidèle et un père exemplaire. Le voilà donc contraint de mettre fin, au moins provisoirement, à sa carrière, dernière en date des victimes du puritanisme ambiant aux grandes dames de ses fans.
2009, c'est aussi l'année où Robert Luzetic commence à écrire son livre sur Tiger Woods, avant même que le scandale sur ses infidélités n'éclate. Robert Luzetic est un journaliste américain spécialiste de golf depuis près de 20 ans, auteur donc du livre « Unplayable », traduction « injouable » sur Tiger Woods. Luzetic avait déjà senti qu'il y avait quelque chose de plus à creuser sur ce personnage.
Mon ambition était vraiment de dresser un véritable portrait. J'ai senti que Tiger et son équipe, dirigée par son agent Mark Steinberg, connu sous le nom de Dr. No, parce que c'était sa réponse à toutes les questions des médias, il contrôlait l'image de marque et le message. Je me suis dit, il y a quelque chose derrière cette façade. Tiger est sûrement en fait un être humain très intéressant, mais c'est comme si vous alliez voir la Joconde. Ce n'est pas la peinture parfaite d'une femme. Elle est intéressante, elle est différente, elle a du caractère. Mon intention était simplement d'étoffer cette image en deux dimensions, comme je l'ai dit, presque fabriquée de qui est Tiger Woods.
Celui qui a en quelque sorte fabriqué Tiger Woods, justement, c'est son père, Earl. C'est un Afro-Américain vétéran du Vietnam. Il rencontre la future mère de Tiger Woods, Kulkida, une réceptionniste thaïlandaise, lors d'un séjour à Bangkok. Le couple s'installe à New York, puis en Californie, où naît Tiger Woods en 1975. Earl Woods est passionné de golf et son fils le regarde jouer avec admiration dès les premiers mois de sa vie. C'est ce que raconte son père dans un documentaire HBO.
Quand Tiger avait moins de 10 mois, je l'ai amené dans le garage, je l'ai mis dans une chaise haute, je l'ai attaché et il m'a vu frapper les balles dans un filet de golf. Il était totalement obnubilé par cette activité, à tel point qu'il fallait lui apporter à manger là-bas. Car quand ma femme a essayé de le sortir de la chaise haute pour qu'il mange, il n'en était pas question. Ce niveau de concentration à cet âge, c'était fou. Un jour, à 10 mois, je l'ai détaché de sa chaise haute et il s'est approché, s'est installé et a frappé la balle. J'ai dit « Oh mon Dieu, je tiens quelque chose de spécial. Je sais ce que je vois et je sais ce que je ressens. Ce talent-là sera le meilleur de l'histoire du golf. Le monde est prêt à ce qu'un golfeur non blanc réussisse. »
Pourtant, Tiger Woods ne va jamais vraiment s'identifier comme appartenant à la communauté noire. En 1997, face à Oprah Winfrey, il invente même le concept de « cablination ».
Je suis cablination, K pour caucasien, bleu pour black, in pour indien et asiatique, cablination. Quand je devais me définir sur le plan ethnique, je devais toujours cocher une case. Je ne peux pas. Je choisis généralement les Afro-Américains et les Asiatiques parce que c'est les deux cultures dans lesquelles j'ai grandi.
Donc, vous ne refusez pas l'héritage de votre mère?
Non, je ne nie pas l'héritage de ma mère. Je ne nie pas l'héritage de mon père. Ce sont les deux choses que je connais.
À l'époque, son refus presque de s'identifier comme noir est assez mal vu de la part de la communauté afro-américaine. François-René Julliard, docteur en histoire contemporaine et auteur d'une thèse sur les athlètes noirs américains, émet cette hypothèse.
Il faut peut-être y voir le reflet d'un certain déclin du militantisme noir à l'époque où Woods acquiert un statut de star mondial, c'est-à-dire fin des années 90, début des années 2000, où vous avez un militantisme à tonnes, assez faible, ou assez invisible en tout cas, principalement local, mais qu'il n'y a pas quelque chose qui ressemblerait soit au Black Power des années 60, ou au mouvement pour les droits civiques, ou bien à Black Lives Matter à partir de 2013.
En tout cas, Earl Woods ne s'est pas trompé sur le potentiel de son fils. À 5 ans, Tiger Woods apparaît dans des magazines et des émissions de télé, tel un enfant prodige. À 9 ans, il gagne le championnat du monde junior. Il le remportera 6 fois au total jusqu'en 1991. Malgré un niveau de vie modeste, son père se débrouille pour lui trouver les meilleurs entraîneurs et le meilleur matériel. Tout est fait pour que le génie Tiger puisse s'épanouir. Robert Luzetic.
Je me souviens d'une histoire quand Earl l'a emmené voir un entraîneur junior. Tiger avait peut-être 8 ans. L'entraîneur a dit « Oh, laisse-moi te regarder frapper quelques coups jusqu'à ce drapeau là-bas sur le terrain. » Tiger a répondu « Monsieur, en fait, avec tout le respect que je vous dois, je sais comment faire. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est si je suis derrière cet arbre, comment est-ce que je peux atteindre ce drapeau ?» Il pensait toujours d'une manière très spécifique. D'une certaine façon, il ressemble beaucoup à Mozart, par exemple, parce que lui seul comprenait la quête dans laquelle il se lançait.
Selon le très bon documentaire HBO, intitulé Tiger, le golfeur a peu d'amis. Il passe le plus clair de son temps avec son père et ses coachs sur un cours de golf. S'il a bien une petite amie au lycée, Dina Parr, elle racontera plus tard s'être fait sortir du tableau par la famille Woods pour ne pas nuire à la carrière du futur champion. Admis à la célèbre université Stanford, Woods poursuit sa carrière en parallèle de ses études. Il enchaîne les victoires en championnat universitaire et en championnat amateur, avec des performances et des tirs d'une précision rarement égalée.
Je vais vous dire quelque chose. Ça, c'est un coup de golf.
Extraordinaire.
Quelle belle frappe.
Ça a l'air plutôt bien. C'est rentré. Super vitesse, c'est dedans. Incroyable.
En août 1996, Tiger Woods quitte l'université et devient golfeur professionnel. Il signe dans la foulée un contrat de 40 millions de dollars avec Nike. Mais le comble pour celui qui ne voulait pas rentrer dans la case sportif noir, c'est que la marque mise toute sa com sur l'origine ethnique de Woods. Il va devenir le symbole de celui qui brise les barrières et les stéréotypes et pour qui tout devient possible. C'est ce qu'expliquent Robin Carr, des relations publiques, et Jim Riswold, directeur pub de la marque, dans ce même documentaire.
Tout le monde sur le campus se demande « Qui sera le prochain Michael Jordan ?» Ça a toujours été la grande question chez Nike. Et puis, surprise, Tiger Woods arrive et c'est le prochain Michael Jordan.
Lorsque vous faites une publicité, vous voulez trouver ce qui rend ce produit unique. Le golf était un sport très blanc, et c'est un sujet dont on parlait. J'en ai parlé, j'ai dit, est-ce qu'on joue la carte de la race ? Nike n'est pas stupide financièrement. Utiliser Tiger pour atteindre un plus large éventail de golfeurs et élargir l'univers du golf est une évidence. Ils ont dit, putain ouais, allez faisons ça.
C'est en 1997 que Tiger Woods explose. Il remporte son premier Master, c'est-à-dire l'équivalent d'un tournoi du Grand Chelem au golf, en battant plusieurs records. Avec 12 coups d'avance sur le second compétiteur, c'est la victoire la plus large et avec le meilleur score de l'histoire du tournoi. À en croire les mots de Tiger Woods, 21 ans, qui répond à un journaliste de la chaîne sportive américaine ESPN, cette victoire monumentale n'a rien d'étonnant.
Pour être honnête avec vous, gagner un grand tournoi très tôt, je l'avais toujours imaginé. Ce n'est donc vraiment pas une si grande surprise pour moi. Gagner de 12 points, ça c'est une surprise. C'est plus que tout ce dont j'avais toujours rêvé. Mais gagner un tournoi important à 21 ans, je pensais un peu que je le ferais à 22 ans environ. J'ai dépassé mes propres attentes.
Les années suivantes seront celles de la consécration. Tiger Woods culmine. Les audiences du golf battent des records. Nike n'a jamais vendu autant d'équipements de golf. À 24 ans, Woods devient le plus jeune joueur de l'histoire à avoir remporté les 4 tournois majeurs. En parallèle, Tiger Woods trouve l'amour. Cet éternel solitaire rencontre en 2001 Elin Nordegren, une blonde aux yeux bleus, ancienne mannequin suédoise devenue jeune fille au pair chez un ami golfeur. Ils se marient en 2004 en grande pompe, avec des invités comme Michael Jordan, Oprah Winfrey ou encore Bill Gates. Ils ont 2 enfants, une fille, Sam, née en 2007, et un petit garçon, Charlie, né en février 2009, l'année où tout bascule.
Je tiens à dire à chacun d'entre vous, simplement et directement, je suis profondément désolé pour mon comportement irresponsable et égoïste. Je vous ai amèrement déçu. Je vous ai fait douter de moi et vous demander comment j'ai pu faire des choses pareilles. Je suis embarrassé de vous avoir mis dans cette position. Pour tout ce que j'ai fait, je suis vraiment désolé.
Ce que vous entendez là, ce sont les excuses publiques de Tiger Woods quelques semaines après les révélations qui ont choqué l'Amérique puritaine. Dans la nuit du 28 novembre 2009, la police de Windermere, en Floride, reçoit un appel de l'épouse de Tiger Woods. Son mari a eu un accident de voiture et la voiture s'est fracassée contre un poteau non loin de leur résidence. En réalité, voilà ce qui s'est passé. Elin Nordegren vient de découvrir un article publié dans un tabloïd. Tiger Woods aurait une liaison avec une certaine Rachel Huchitel, gérante d'un nightclub. Une violente dispute éclate entre Tiger Woods et sa femme. Woods, sur les nerfs, quitte la maison. Il prend sa voiture, mais quelques mètres plus loin, il perd le contrôle de son véhicule. Le lendemain, l'affaire éclate au grand jour. Mais ça ne s'arrête pas là. Jour après jour, plusieurs femmes prennent la parole dans les médias. Une actrice de film X, une serveuse, la fille d'un voisin. La liste des liaisons du golfeur s'allonge de jour en jour, agrémentée de textos, de factures de chambres d'hôtel et même de messages vocaux, comme celui-ci où Tiger Woods est pris la main dans le sac.
Hey,
c'est Tiger. J'ai besoin que tu me rendes un service. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, retirer mon nom de ton téléphone ? Ma femme a regardé dans mon téléphone et elle va peut-être t'appeler. Si tu peux, enlève juste mon nom, juste garde le numéro. Tu dois faire ça pour moi. C'est très important, fais vite. Ok, bye.
Pour Robert Luzetic, non seulement l'histoire est terrible, mais la gestion de crise dans le clan Woods s'avère désastreuse.
Instead of confronting
Au lieu d'affronter l'histoire, il la fuit en espérant qu'elle disparaisse. On aurait dit que son équipe était enfermée dans un bunker. Il n'était jamais, jamais, jamais sur le devant de la scène. Il n'était jamais offensif, mais toujours sur la défensive. Ils étaient sans cesse bombardés par une nouvelle révélation dans les tabloïds, une nouvelle maîtresse qui apparaissait, un nouveau rebondissement. Il y a ensuite eu les serveuses de Pancake House. C'était incroyable. Je pense que partout dans le monde, dans les universités, dans les cours de relations presse de crise, de gestion de crise, on doit prendre ça comme exemple de ce qu'il ne faut pas faire. C'était un désastre.
Ce qui est le plus frappant dans cette histoire, au-delà du nombre de maîtresses et de l'envergure du mensonge, c'est que personne ne pouvait soupçonner qu'un homme tel que Tiger Woods puisse faire une chose pareille. Il était le parfait gentleman, l'homme bien sous tout rapport, le champion de golf, beau, classe, propre sur lui.
Je veux dire, la réalité, c'est que Tiger en était venu à croire qu'il était insubmersible, que rien ne pouvait l'atteindre, absolument rien. Honnêtement, je me souviens avoir parlé à un autre joueur du circuit, et ce qu'on se disait, fin 2009, début 2010, c'est qu'aucun de nous ne pouvait croire que Tiger ait été aussi imprudent. C'est son imprudence qui a été choquante. Lui qui était tellement intransigeant, lui qui était un tel monstre de discipline et de contrôle. Il a cultivé cette image du père de famille parfait que le magazine People a diffusé avec sa belle épouse, son chien, puis les enfants. Tout n'était que sourire et tout était... C'était l'homme qui vous vend une Buick, qui vous propose d'acheter des boissons énergisantes, d'acheter des Nike, d'acheter des montres. C'est celui qui vous les vend. Et finalement, il s'avère qu'il n'est pas vraiment la personne qui a été créée pour vendre ces produits.
Il faut dire qu'on ne parle pas d'amourette d'un soir. La plupart des filles évoquent des liaisons sentimentales, du moins pour elles, ayant duré parfois plusieurs années. Pour Tiger Woods, c'est le début de la descente aux enfers. Comme souvent aux États-Unis dans ce genre d'affaires de mœurs, direction la rehab. À 34 ans, après les fêtes de fin d'année, Woods se fait hospitaliser dans une clinique spécialisée dans les addictions sexuelles. Puis son divorce est prononcé quelques mois plus tard. Côté golf, ses résultats dégringolent. Autre fait marquant, il se sépare de son caddie, c'est-à-dire celui qui porte ses clubs de golf, et qui était aussi son confident. Steve Williams a été à ses côtés pendant 12 ans. Il a gagné avec lui 13 titres majeurs et Woods fut son témoin de mariage. En bref, c'est la fin d'une ère.
Ça l'a vraiment changé en tant que personne. Sa confiance en lui a changé. Il n'avait plus la même assurance après ça. Je me souviens, avec quelques autres journalistes, lors de la Ryder Cup 2010 au Pays de Galles, dans un restaurant, on a croisé Michael Jordan, qui était là, avec quelques membres de son entourage. Il a dit quelque chose comme « Tu sais ce qui ne va pas avec Tiger ?» Et je me suis dit « Je veux savoir ce que vous pensez de ce qui ne va pas avec Tiger, plus que ma propre opinion. » Et il a dit « Son problème, c'est qu'il entend tout, n'est-ce pas ? Il entend tout et ça lui fait mal. Les blagues, l'humiliation. Il s'est senti humilié, n'est-ce pas ? Si ce scandale était arrivé à Michael Jordan, il aurait fait un double nickel sur les Knicks de New York lors du prochain match et on se serait à nouveau intéressé au sport. Le problème est que Tiger n'a jamais pu ramener le sport au centre de l'attention, car il est évident qu'il était affecté par ce scandale.
En 2013, c'est finalement un nouveau Tiger Woods qui refait surface. Laurent Louette, ancien rédacteur en chef du service sport au Figaro, se souvient avoir réussi à décrocher une interview avec lui à ce moment-là, la première depuis 15 ans de tentative.
Le rendez-vous est fixé à 6h du matin. Donc, depuis notre hôtel de Palm Beach, une limousine noire avec un chauffeur en costume cravate noire, quasiment un X-Men, vient nous chercher pour nous emmener chez Tiger. Il faut savoir que Tiger Woods se lève tous les matins à 4h, part s'entraîner sur le plan physique à 5h le matin et il est de retour aux alentours de 6h chez lui tous les jours pour ensuite vaquer à un certain nombre de ses occupations, notamment liées à ses business et à la communication. Et donc ce matin-là, on arrive donc aux alentours de 5h30 dans cette immense villa floridienne. On est donc à Jupiter. On ne sait plus si les maisons sont sur des îlots au milieu de petits lacs ou si ce sont des lacs qui entourent les maisons pour le décorum. Et on nous demande d'attendre Tiger qui va arriver. Donc Tiger se présente, sort de la voiture, visage impassible, il a une chemise blanche. Et là, pour le coup, le manager nous rappelle que nous avons 20 minutes d'entretien en face à face avec lui. L'entretien durera exactement 20 minutes.
À ce moment-là de sa carrière, en 2013, Tiger Woods est en train de démontrer au monde entier qu'il est encore le boss de sa discipline. Cette saison-là, il remporte pas moins de 5 tournois sur le circuit.
En fait, là, moi, quand je l'interroge, il est redevenu numéro 1 mondial en décembre 2013. Et donc, on le semble reparti en quête du record de victoire en tournoi majeur qui appartient à Jack Nicklaus, qui en compte 18, et Tiger, lui, à l'époque, en compte 14. Et donc, il va repartir en quête de ce record détenu par Nicklaus pour devenir le plus grand golfeur de tous les temps. Il se trouve que, quelques semaines après notre interview, son dos va lâcher. Il va être forfait au Masters d'Augusta et il va partir pour plusieurs années de galère qui vont le conduire, quelques années plus tard, à être arrêté au bord d'une route de Floride par la police, totalement shooté aux médicaments, hagard, perdu. Et la police va faire cette photo qui va tourner partout dans le monde sur les réseaux sociaux. Cette photo, donc, face à un mur avec une ardoise qui affiche l'identité de Tiger Woods. On ne le reconnaît à peine. Il est bouffi, les yeux sont gonflés. Il n'a plus rien du champion qu'il a été.
Récitez l'alphabet de A à Z d'une manière lente et non rythmée, d'accord? Vous pouvez commencer quand vous serez prêt. Monsieur Woods, vous n'êtes pas obligé de déambuler n'importe où. Allez-y, tenez-vous debout, les pieds joints et les bras baissés le long du corps. Vous allez bien? Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qu'on fait? A, B, C, D... E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P.
Je vous mets en état d'arrestation pour suspicion de conduite sous influence, d'accord? Est-ce que vous comprenez? Très bien, allez-y.
Nous sommes en mai 2017, Tiger Woods a 41 ans. Sur les images de son arrestation, enregistrées par la police, il est clairement dans un état second. En réalité, avec la multiplication de ses opérations au genou et au dos, Tiger Woods a développé une addiction aux antidouleurs. Il lui faudra plusieurs mois pour s'en libérer.
Tiger Woods installé, gagné. Ce Masters 2019, ce serait l'incroyable histoire après sa dernière victoire en majeur en 2008. Deux putts.
Tout à fait.
Deux putts pour gagner. Deux putts pour décrocher un 15e majeur.
Toujours vêtu de sa couleur rouge fétiche, Tiger Woods lève les bras en signe de victoire. Il vient d'accomplir l'exploit que tout le monde espérait mais que personne ne croyait possible. Remporter un nouveau master et signer ainsi sa 15e victoire en majeur. Mais 2 ans après cet exploit, c'est un nouveau retour de bâton. En 2021, il a un grave accident de voiture qui le blesse sérieusement aux jambes, entraînant plusieurs opérations. Il n'est jamais revenu à un très haut niveau depuis. Et comme pour boucler la boucle, Nike, son sponsor de toujours, annonce la fin de son partenariat avec lui, long de 27 ans, au début de l'année 2024. Désormais, le doute plane sur un possible retour de Woods sur le circuit. Ce qui semble plus probable, c'est la relève de son fils Charlie, 15 ans, qui s'est illustré en participant à un tournoi de préqualification du PGA Tour. Une grande première pour un jeune golfeur de son âge. Moi, je ne peux m'empêcher de me demander ce que l'on retiendra de cette histoire dans les 10, 20 ou 50 prochaines années. Tiger Woods le champion ou Tiger Woods le Don Juan ? Robert Luzetic, lui, a sa réponse.
Évidemment, il y a des leçons à tirer. Des leçons sur l'orgueil de Tiger Woods. Et il en avait. Mais c'est comme si on se souvenait de Napoléon que pour les défauts de son caractère. Je veux dire, oui, il a fait des choses terribles, mais en même temps, c'était un militaire génial, un général incroyable qui a remporté tant de batailles. C'est en tout cas ce que l'histoire retient de lui. C'est aussi pour les mêmes raisons qu'on se rappelle d'Alexandre le Grand. L'histoire sera, je pense, très clémente avec Tiger Woods, dans le sens où l'histoire se souviendra de lui comme ce talent unique. Pour moi, c'est le genre de talent qui n'arrive qu'une seule fois par siècle. Parce que les choses qu'il a faites... En fait, on pourrait s'asseoir là pendant une demi-heure et décrire tous ses exploits sportifs. Ils ne seront jamais dépassés. Ils ne seront pas battus.
Je suis Marion Galli-Ramouneau et vous venez d'écouter le quatrième épisode de cette mini-série de Scandale, un podcast de Madame Figaro, consacré à quelques sombres affaires qui ont terni le monde du sport, écrite par Camille Maestrachi. Adèle Lécharny a apporté son aide à la production. À la prise de son, François Duval. Thomas Rosès a fait le montage, la réalisation et le mix de cet épisode. Il a aussi arrangé certaines des musiques composées par Jean Thévenin. Lucille Rousseau-Garcia est la productrice de Scandale et Océane Sunny en est la responsable éditoriale. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. Et surtout, vous abonner à Scandale si ce n'est pas déjà fait. Dans deux semaines, je reviens avec un nouvel épisode sur une folle débâcle amoureuse qui n'a rien à voir avec le sport, quoique, celle de Shakira.